Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, acheter français, l'appel à l'aide ce matin sur RTL des fabricants de masques made in France.
Des entreprises sont quasiment en faillite. L'État qui leur demandait il y a un an d'investir, de produire massivement pour être autonome, se fournit à nouveau aujourd'hui en Asie. En Allemagne, les sociaux-démocrates du SPD sont en tête, mais rien n'est fait pour autant. Les conservateurs de la CDU sont juste derrière. Les Verts et les libéraux sans état d'âme s'offriront aux plus généraux pour monter une coalition. Dans ce journal également, imaginez-vous ce matin partir au bureau avec une besace entre 15 et 20 kilos. Proportionnellement, c'est ce que font vos enfants tous les jours. La Fédération des parents d'élèves demande une loi. Et puis Julien Alaphilippe, effectivement, qui s'assoit à la table des plus grands champions de son sport. C'est la première fois qu'un Français conserve son titre de champion du monde.
La politique, Olivier Bosse.
Et l'Allemagne, donc, pays de l'instabilité politique. Vous plaisantez, j'espère.
Et vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
En avril 2020, souvenez-vous, quand la France se rend compte qu'elle peut à peine fournir des masques à ses soignants, la priorité devient évidente, remonter des entreprises 100% françaises pour ne plus dépendre des grands producteurs asiatiques. En quelques mois, performance industrielle rare, le pays remet sur pied 25 sociétés, avec à la clé la capacité de fabriquer 100 millions de masques par semaine et d'être donc complètement autonome. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, les clients manquent. L'État lui-même a recommencer à commander des masques en Asie. Et Patrice Gabart, l'exemple type, c'est cette entreprise, cette coopérative bretonne installée près de Guingamp qui est au bord de la faillite.
Bonjour, c'est la Coop des masques à Guingamp. Est-ce que vous avez des besoins en ce moment ?
Opératrice de conditionnement, Amandine Laurent, comme une partie des équipes, a quitté l'atelier pour rejoindre les bureaux et rappeler les 4000 contacts du fichier client. L'objectif, diminuer le stock de 6 millions de masques en bradant les prix de 30 à 50% pour retrouver un peu de trésorerie.
On s'accroche, on va dire. Enfin, moi, j'arrive pas à me dire qu'il faut laisser tomber et je me bats tous les jours pour ça, quoi.
Plus de 500 000 masques sont partis ces 5 derniers jours. C'est encourageant, mais rien n'est gagné. Guy Asquette, président de la coopérative.
D'après le syndicat des masques, plus de 95% des achats français du premier semestre sont partis en Asie. Donc, on est dans la course au moindre prix. Donc, il y a une contradiction entre volonté de relocalisation. Nous, on a monté une filière française-européenne. C'est-à-dire que nos machines sont françaises. Tous les produits qui rentrent dans la fabrication, on est un petit peu plus cher, mais la question, c'est que comment des gens qui disaient allez-y, foncez, on en veut, on sera là il y a un an et qui achetaient des masques jusqu'à 1 euro le masque, disent 10 centimes ou 8 centimes, ah non, maintenant 4. Ils repartent vers leurs mauvaises habitudes tout en souhaitant la relocalisation. On est dans une contradiction qui est aussi bien dans le monde public que dans le monde privé. Donc au moment où vous rentrez en production et que vous devez appeler tous vos clients, ils vous disent bah, pour l'instant je veux bien, mais j'ai besoin de rien.
Pour éviter le dépôt de bilan, la coopérative bretonne doit déstocker plus de 2 millions de masques dans les semaines qui viennent.
Merci beaucoup Patrice Gabart. Et donc cet appel acheter français d'un secteur qui, selon les syndicats, génère 10 000 emplois. Jean Castex le confirme, les tests Covid de confort ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre, sauf sur prescription médicale ou pour les personnes vaccinées. Et puis SOS Médecins sera totalement à l'arrêt pendant 24 heures. La grève commence tout à l'heure à 8 heures pour obtenir une augmentation du prix des visites à domicile.
RTL, il est 7h03 en Allemagne. On ne sait pas ce matin qui sera le prochain chancelier allemand.
Et non, les sociaux-démocrates du SPD arrivent en tête. 25,7% des suffrages. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin pour RTL. Alors Olaf oui. Scholz, pour autant, est encore loin, très loin d'entrer à la chancellerie. Les scores, en fait, sont beaucoup trop serrés, Bénédicte.
Ah, le vote des Allemands est très très émietté. C'est même une première pour la CDU, les centres droits menés par Armin Laschet, d'être en dessous de la barre des 30%. Mais ce n'est pas perdu pour autant pour le parti d'Angela Merkel. Il peut espérer gouverner avec des alliés, les Verts, qui sont à près de 15%, plus les libéraux à 11%. Vous le voyez, les jeux ne sont pas faits.
Alors en France, avec une telle situation, on parlerait de blocage, voire de crise politique. Ouais. L'Allemagne, de son côté, est habituée à ces tractations.
Alors écoutez, aucun Allemand n'espérait connaître le nom du chancelier cette nuit. Une fois seulement, un parti a obtenu la majorité absolue, c'était en 57 avec Adenauer. Donc maintenant, la partie de poker débute. Ce matin, tous les leaders se réunissent et annoncent avec qui ils veulent négocier. On discute à 3, peut-être à 4, par exemple le SPD, centre-gauche, les Verts et la droite libérale. Oui, oui, un tel mariage va exister, peut exister. Ensuite, on rédige un traité de coalition qui aura une valeur juridique. On va y inscrire, par exemple, la fermeture des centrales à charbon pour 2030. Et après, on connaîtra le nom du chancelier. Durée moyenne de tout ça, 43 jours, si on se réfère à l'histoire. En 2017, il avait fallu, on le rappelle, plus de 5 mois.
On va devoir être patient. Merci beaucoup, Bénédicte Tassa, envoyé spécial d'RTL à Berlin.
7h05, et dire qu'on ne le donnait pas favori, Julien Alaphilippe a été très grand hier.
Et oui, il conserve son titre de champion du monde de cyclisme. C'est la première fois qu'un Français réalise un tel exploit. Et en plus, avec panache, Nicolas Georgerot.
Le scénario est différent de l'an passé, mais l'émotion intense, toujours. Les larmes sur le podium, 17 km, seul à résister au retour des adversaires. Julien Alaphilippe est le premier Français double champion du monde.
Je suis content d'avoir marqué l'histoire de mon sport, mais là, une victoire comme ça, ici en plus, en Belgique, sur une terre de vélo, gagner de cette manière, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Donc je me retrouve avec le maillot et il n'est pas tombé de nulle part. J'ai vraiment été le chercher, donc je vais vraiment le savourer aussi.
Valentin Madouas, équipier modèle et décisif, comme d'autres dans la dernière heure de course.
On est forcément fiers, heureux de porter ce maillot et avoir un champion comme Julien, c'est vraiment extraordinaire.
Au total, 5 attaques d'Alaphilippe en 40 km pour écœurer la concurrence. Le Belge Van Aert, le Néerlandais Van Der Poel, battus, impuissants, font allégeance.
Je suis heureux pour lui aussi, il mérite, il était encore le plus fort je pense aujourd'hui, donc c'est un beau champion.
Je pense Julien était le plus fort dans le final.
La foule, l'ambiance, le déroulement de la course, Alaphilippe a enflammé les 60 derniers kilomètres de ce championnat qui restera comme l'un des plus grands mondiaux de l'histoire.
Merci Nicolas Georgerot, et vous avez recueilli précisément les confidences, la joie et le bonheur de Julien Alaphilippe qu'on va entendre en longueur juste après ce journal à 7h15. En bref, soyez patients si vous avez en tête de faire des travaux chez vous. Pénurie de matières premières oblige, on manque d'inox pour les cuisines, on manque de PVC ou d'aluminium pour les fenêtres. Les rayons des magasins de bricolage sont un peu plus vides que d'habitude en ce moment. Et les prix des chantiers augmentent. On va y revenir avec la brigade RTL juste après ce journal.
Dans un instant, on se met à la place de nos enfants qui portent tous les jours des cartables d'au moins 10 kilos. 10 kilos, c'est 20% de leur poids pour la plupart d'entre eux. Les parents demandent une loi pour limiter tout cela. Restez sur nous sur RTL, il est 7h07. A tout de suite.
RTL Matin.
Il est 7h08, la suite du journal avec Olivier Bois. Nos élèves et nos collégiens, très précisément, ont mal au dos.
Et on les comprend. Avec des cartables de 10 kilos en moyenne, les collégiens portent, disons, 20% de leur poids tous les jours, avec des livres énormes qui ne sortent parfois même pas de leur cartable. Écoutez le ras-le-bol, par exemple, de Carla, qui est au collège.
C'est vrai que nos sacs sont vraiment très très lourds. C'est une catastrophe. Alors, c'est vraiment horrible. Il faut vraiment arrêter les livres.
Vous ameniez des livres pour rien ?
Ah oui. Tous les cours, des livres pour rien.
Genre, ils me disent de les emmener, au final on les utilise pas.
À part en histoire, on l'utilise à chaque fois, les autres, ça, ils servent à rien. Le livre de physique, celui-là, il me hante, hein. Un dictionnaire.
Le soir, vous rentrez chez vous, vous avez mal au dos.
Ah oui, oui.
Scoliose.
Scoliose, ah oui, vraiment, horrible.
Carla, donc, au micro de Lucille Besse, et la FCPE, la principale fédération des parents d'élèves, réclame une loi justement pour limiter notamment le poids de ses cartables.
Il est devenu le symbole d'une forme de laxisme. Le ministre de la Justice ne veut plus du rappel à la loi.
Oui, qui peut être utilisé par exemple dans des affaires de violence ou de consommation de drogue. L'auteur est seulement convoqué, on lui rappelle la loi et ça n'est même pas marqué sur le casier judiciaire. C'est ce dont ne veut plus précisément le ministre de la Justice, Alice Moreno.
Oui, le rappel à la loi est une réponse pénale trop faible pour être efficace, selon le garde des Sceaux. Concrètement, aujourd'hui, l'auteur d'une infraction est convoqué par le procureur pour un entretien solennel. Il lui rappelle les obligations prévues par la loi et les sanctions en cas de non-respect. Et ce n'est même pas mentionné sur le casier judiciaire. Cette mesure représente 30% des alternatives aux poursuites. Évanescent, mal perçu, insiste Éric Dupond-Moretti, ce rappel à la loi sera remplacé par l'avertissement pénal probatoire au 1er janvier 2023. Pendant un an, à compter de la commission d'une infraction, les mis en cause seront placés sous surveillance. Durant cette période, s'ils enfreignent la loi à nouveau, ils peuvent être jugés pour les deux délits. Seront exclus de ce nouveau dispositif dès la promulgation du texte les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Les auteurs de ces délits feront l'objet de poursuites judiciaires.
Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
Et je vous rappelle qu'Éric Dupond-Moretti, ce matin, l'invité exceptionnel d'RTL, il répond aux questions d'Alba Ventura à partir de 7h40. Le fonctionnement de notre justice, le comprenez-vous ? N'hésitez pas à interroger vous aussi le ministre à partir de 8h20. Il répondra à toutes vos questions en direct sur RTL. Au 32 10 ou par SMS 64 900.
En quelques mots, la 8e journée de Ligue 1. D'abord la victoire de Lens à Marseille hier soir 3-2 qui permet au sang et or de monter sur la deuxième place du podium devant l'OM précisément. Le PSG est toujours leader. Et puis en top 14, à l'issue de la 4e journée du top 14, eh bien Toulouse est toujours leader après sa victoire 27-15 face à Clermont. Et puis allez faire un tour sur vos comptes en banque. Tiens, aujourd'hui, si les prélèvements à la source n'ont pas permis de payer toute la somme à cause par exemple d'une augmentation de salaire, c'est aujourd'hui que le fisc va aller prendre le reste, que 11 millions de foyers fiscaux sont concernés. Et si la somme, ceci dit, excède les 300 €, il y aura 300 euros, il y aura échelonnement du paiement.
Bon, ben on va aller jeter un œil. Hein. Les courses ont lieu aujourd'hui à Rouen-Mocanchy.
Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 8, le 11, le 7, le 6, le 9 et le 12. La dernière minute, c'est le 11.
Et le journal.